La transition, c'est vous, Hervé Gardette, et on va immédiatement vous entendre évoquer le pétrole.
Oui, le pétrole, avec, vous avez vu, les cours qui ont fortement augmenté après l'attaque samedi d'installations pétrolières en Arabie Saoudite. Ça, c'est ce que vous auriez pu me dire, par exemple, Guillaume Erner, si vous aviez
retrouvé. Mais j'y pense, mais j'ai le papier enfin sous les yeux. Alors, et il y a une crise qui en résulte, je crois, Hervé Gardette.
En effet.
Avec qui, laquelle témoigne de notre dépendance toujours aussi forte à l'or noir.
Je ne vous le fais pas dire. Francis Duzeux préside l'Union française des industries pétrolières. Il est interrogé par l'agence France Presse sur les conséquences de l'attaque des installations saoudiennes samedi dernier. On peut s'attendre rapidement à une augmentation de l'ordre de 4 ou 5 centimes par litre d'essence à la pompe. 5 centimes, ajoute-t-il, c'est tout à fait considérable. C'est peut-être ce qu'il y a de plus inquiétant pour les Français. Alors, est-ce parce que je n'ai pas de voiture? Personnellement, ce qui me paraît le plus inquiétant, bien qu'étant français, c'est de voir cette attaque dégénérer en conflit ouvert entre les alliés de l'Iran et ceux de l'Arabie Saoudite. Mais ce qui est le plus stupéfiant, c'est de constater à quel point le pétrole et le gaz, ressources fossiles dont l'extraction et la consommation sont responsables de 40% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, comment ces ressources continuent de dicter leurs lois aux relations internationales. Alors on ne découvre pas ici le poids géopolitique considérable des enjeux énergétiques, comme le rappelle l'historien Thomas Gomard dans son livre « L'affolement du monde » publié cette année chez Talendier. Le contrôle des flux pétro-gaziers constitue l'arrière-plan de la Première Guerre mondiale, de l'entre-deux-guerres, de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre froide et de la mondialisation. Certains ont bien tenté de s'en affranchir après le premier choc pétrolier. En 1973, la hausse brutale des prix du pétrole décidée par l'OPEP pour peser dans la guerre du Kippour fait prendre conscience aux pays importateurs de la nécessité de sécuriser leurs sources d'énergie en diversifiant leur nature et leur provenance. Mais le principe d'inertie est le plus fort, d'autant que la principale puissance mondiale, les États-Unis, demeure viscéralement attachée à un mode de vie basé sur les énergies fossile, un mode de vie non négociable, pour reprendre les mots de George Bush senior. Citons encore Thomas Gomard. La prise de conscience des effets du dérèglement climatique est postérieure à la mise en place de politiques énergétiques nationales. Il est donc d'autant plus difficile de modifier celles-ci. Il en va d'ailleurs des politiques comme des grilles de lecture médiatique qui peinent à sortir du seul cadre d'interprétation interétatique. Et c'est ainsi que le pétrole et les énergies fossiles continuent de gouverner le monde. Car nous ne sommes pas seulement dépendants des hydrocarbures d'un point de vue physique, économique et technique. La dépendance est aussi intellectuelle, une forme d'addiction qui fait que, bien que conscient de son impact sur le réchauffement climatique, nous ne savons pas penser le monde en dehors du pétrole. Le fait est que la gymnastique n'est pas évidente. Le géopolitologue Jean-Michel Valentin en donne un exemple frappant dans « Géopolitique d'une planète déréglée ». Dans cet ouvrage, publié au Seuil en 2017, il raconte comment l'armée américaine a pris conscience du danger climatique. Comment elle s'organise pour y faire face, malgré le déni de l'administration Trump. Mais elle le fait sans parvenir à en tirer toutes les conséquences. Car si l'armée américaine s'empare de ce sujet, écrit Valentin, c'est pour défendre une société encore largement inadaptée aux réalités géophysiques contemporaines et dont les pratiques et les rejets de gaz à effet de serre aggravent la crise des ressources et le changement climatique. Alors vous, Alain Finkielkraut, qui vous intéressez à la cause animale, vous avez probablement lu « La jungle » du romancier américain Upton Sinclair, dans lequel il décrit l'abattage du bétail et les conditions de travail des ouvriers des abattoirs de Chicago. Eh bien, on attribue à Sinclair la phrase suivante « Il est difficile pour un homme de comprendre une chose si son salaire dépend du fait qu'il ne comprenne pas. » Il est difficile pour un homme de comprendre une chose si son salaire dépend du fait qu'il ne comprenne pas. Avec le pétrole, nous en sommes encore là.
Merci Hervé Gardette. Une réaction à la Finkielkraut?
Non, j'ai pas de réaction. Je trouvais cette chronique admirable.
Vous avez rédigé plusieurs textes sur l'écologie, Alain Finkielkraut, oui. Avec une attention particulière à la cause animale, Hervé l'a rappelé, et également une attention au paysage.
Oui, bien sûr. Parce que je crois que il y a une dimension esthétique et poétique dans l'écologie qui s'est complètement perdue. On le voit dans le vocabulaire. La nature disparaît au profit de la biodiversité et des écosystèmes. Et les paysages au profit de l'environnement. Et voilà pourquoi d'ailleurs je suis si critique de l'idolâtrie dont Greta Thunberg fait l'objet, parce que son invention, c'était quoi? C'était la grève des cours hebdomadaires, nous ferons nos devoirs quand vous ferez les vôtres. Denis Kambouchner a dit écrit tout récemment un ouvrage où il affirmait que l'enseignement, ça consistait à donner des mots. Eh bien, il faut donner des mots, parce que si on a les mots, on voit. Et si on voit, on sait ce qu'on perd. Et donc, on le défend beaucoup mieux. Et surtout, si on sait regarder, alors on ne considère pas les éoliennes comme une partie de la solution, mais comme un très grave problème, parce que je ne sais pas ce qu'elles font pour l'environnement, mais elles détruisent les paysages.